20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Direction les bords du lac Léman, ce soir la Grange au lac, où dans quelques petites semaines seulement se tiendront les rencontres musicales d'Évian, dont l'invité d'honneur cette année sera Gabriel Fauré, car à l'occasion du 100e anniversaire de sa disparition, Renaud Capuçon, le directeur artistique du festival, a choisi de programmer toute sa musique de chambre et de s'entourer pour l'occasion de la fine fleur des musiciens français d'aujourd'hui. Il sera dans un court instant à notre micro pour en parler avec l'un des complices de cette aventure foréenne, le violoncelliste Edgar Moreau. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons Thierry Ilerito du Figaro, qui cette semaine nous dressera le portrait de la chef d'orchestre et boxeuse Elim Chan. Ils ne sont pas de la même génération, mais se connaissent et jouent ensemble depuis déjà une bonne dizaine d'années. Ils ont partagé et partageront encore de beaux moments de musique à Aix, à Gstaad, comme à Évian. Edgar Moreau et Renaud Capuçon sont avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Laure.
Gstaad, Aix, Évian, ce sont vos trois ports d'attache désormais, Renaud, vos trois aventures musicales avec Lausanne.
Absolument, ce sont des endroits. Curieusement, ce sont que des villes. Pas très grande. Je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Ce sont des endroits, un peu des îlots comme ça, de calme et de musique.
Alors, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence était il y a quelques semaines et nous en avons profité sur l'antenne de Radio Classique. On va s'intéresser ce soir aux rencontres musicales d'Évian, dont la prochaine édition, c'est la deuxième que vous avez concoctée en tant que directeur musical, se tiendra du 26 juin au 6 juillet. Un festival, un lieu, une salle, la Grange au Lac, que vous connaissez, Edgar Moreau, que vous avez déjà fréquenté, où vous avez déjà de beaux souvenirs.
Oui, il y a quelques années maintenant, bien avant que Renaud reprenne la direction musicale de ce festival, j'avais eu la chance effectivement de faire mes débuts avec Gustavo Dudamel, je me souviens, il y a quelques années, et le Mahler Chamber Orchestra.
Justement, cela fait une dizaine d'années que l'on vous connaît. Vous n'aviez pas 20 ans lorsque vous avez joué au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence à l'invitation de Renaud. Vous avez accompagné tout son parcours depuis 10 ans. Quel regard portez-vous, Renaud, justement, sur ce compagnonnage?
Quand un jeune a du talent, ça serait très présomptueux de dire que je l'ai accompagné. On s'est accompagné mutuellement. Ce qui est beau dans le compagnonnage musical, quelles que soient les générations, c'est que, vous voyez, c'est un accompagnement mutuel. Alors, il y a peut-être un moment quand on est très jeune, où on, bien sûr, on a besoin, c'est formidable d'avoir quelqu'un de plus âgé, ne serait-ce que pour poser des questions, des conseils, etc. Mais musicalement, ce que je trouve génial, c'est que quand il y a un grand talent, et parfois, dans le cas d'Edgar, il était très très jeune, la maturité musicale était déjà là. En tant que personne un peu plus âgée, ce qui était le cas, je recevais de lui des choses dont il n'avait même pas conscience, en fait. C'est ça, le talent. Et c'est formidable de voir qu'après, avec les années, on mûrit ce talent. Et ça, pour le coup, j'ai suivi et accompagné Edgar dans le développement de son talent en l'écoutant jouer et en voyant que ce qui était déjà extraordinaire quand il avait 17 ans s'est confirmé, affirmé. Et c'est là où on voit aussi la maturité et l'intelligence musicale, parce que vous avez des talents comme lui, il n'a pas très souvent, mais il y en a quelques-uns qui restent au stade du waouh, et puis ensuite ça retombe très vite.
Parce qu'ils ont besoin d'une émulation aussi, de jouer avec d'autres, d'être entraînés.
Oui, mais ça s'appelle l'intelligence, ça. C'est le fait d'être capable de faire les bons choix. Et dans ces moments-là, effectivement, on a parfois besoin d'un plus âgé qui vous guide un petit peu, mais il a fait ça très bien.
Et justement, pour vous, Edgar, ce compagnonnage avec Renaud Capuçon, qui a été votre partenaire depuis déjà plus de 10 ans, qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Oui, partenaire, et moi j'ai pas peur de dire aussi mentor, d'une certaine manière. Comme Renaud vient de le dire, la première fois que Renaud m'a contacté, j'avais 17 ans, donc il y a 13 ans maintenant. Mmh. Je me souviens très bien d'un petit message que je reçois un jour. Je rentrais du concours Tchaïkovski de Moscou, et puis je reçois un petit message de Renaud Capuçon. J'étais très impressionné, et qui me proposait d'aller boire un café. Et puis bien sûr, quand on est jeune, en fait, on a besoin de cette confiance, on a besoin d'avoir des gens qui sont des grands artistes, qui sont des gens qui comptent sur au niveau de la scène musicale, qui vous font confiance. Et après, bien sûr, c'est à vous aussi de respecter cette confiance. Et moi, je serai, je pense, toute ma vie très reconnaissant d'avoir eu Renaud Capuçon comme grand frère de scène.
Alors je te renvoie le compliment dans l'autre sens.
Vous vous retrouverez cet été à Évian pour jouer entre autres ensemble la musique de Forêt, puisque se donnera dans le cadre des rencontres musicales d'Évian l'intégrale de la musique de chambre de ce compositeur qui avait des liens avec cette région. Cela a du sens de jouer la musique de Forêt à Évian. Il aimait cette région, il aimait ce lac comme l'autre grand lac, pas très loin, le lac d'Annecy, Renaud.
Oui, il aimait cette région. Alors il n'est pas le seul, parce qu'il y a eu plein de compositeurs qui ont composé au bord du lac Clément. Et Brahms a lui-même composé beaucoup de sa musique de chambre au bord d'un autre lac, le lac de Thun, T-H-U-N, qui est en Suisse. Et donc, il y a quand même une sorte d'attirance par ces compositeurs avec ces lieux de quiétude. Et je dois dire que nous, en tant qu'interprètes, on est si heureux d'être à Évian aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'on est inspiré par ce lieu. Pourquoi Forêt ? Bon, on fête cette année le 100e anniversaire de la mort du compositeur, mais c'est une musique que personnellement je joue depuis très longtemps. J'ai enregistré toute la musique de chambre avec pas mal d'amis il y a une quinzaine d'années. Et puis c'est un des premiers compositeurs que j'ai joué en musique de chambre, tout comme Brahms. Je trouve que leur somme de musique de chambre, à la fin de Brahms et de Forêt, sont quasi parfaites. Il n'y a pas une œuvre qui est un peu moins bonne. Et ce qui est fascinant chez Forêt, c'est les deux périodes. Il y a la période, quand on prend les sonates pour violon, vous avez la première période de jeunesse de Forêt, et puis la deuxième sonate qui est opus 108, qui est vraiment à la fin de la vie de Forêt, quand il avait ses vrais problèmes d'audition et qu'il avait un spectre sonore extrêmement réduit. Il y a plein de... tout un chant qu'il n'entendait plus. Et donc, ça donne à cette musique une intensité absolument incroyable, une complexité aussi. Et donc, moi, j'aime les intégrales. J'aime cette idée de pouvoir offrir à un public et aux interprètes un corpus comme ça d'un compositeur. On est dans la ville où il a composé cette deuxième sonate pour violon qui est sublime. Je trouvais que c'était un très bel hommage de pouvoir jouer l'intégralité de sa musique de chambre. Encore une fois, pour un public qui ne connaîtrait pas, c'est un voyage initiatique génial, parce qu'en 5 concerts, on peut parcourir comme ça toute le parcours de ce compositeur.
L'andante de la deuxième sonate pour violon et piano de Forêt, jouée par Renaud Capuçon et Nicolas Angelich, une sonate composée en 1916 lors d'un séjour de Forêt à Évian, au bord du lac, là où elle résonnera de nouveau cet été dans le cadre de cette intégrale de la musique de chambre de Forêt que vous partagerez, Renaud Capuçon, avec Edgar Moreau, qui est également avec nous ce soir, et d'autres beaux musiciens. Vous jouerez les deux sonates, entre autres, donc l'une avec Guillaume Bellhomme et l'autre avec Lucas Debargue. Donc ce sont deux univers musicaux différents, mais aussi deux pianistes aux univers musicaux différents. C'est ça,
oui,
qui est passionnant.
Oui, et puis j'ai tâché de vraiment mixer les générations dans cette intégrale. Vous avez des gens comme Gérard Cosset qui a gravé l'intégrale de la musique de chambre de Forêt 3 fois quand même. une fois avec Jean Hubeau, une fois avec Jean-Philippe Collard, et une autre fois, 20 ans après, avec D'Alberto
et
Angelich. Gérard qui sera là maintenant avec encore une autre génération, et puis la génération, la mienne, qui est un peu centrale, je dirais, voilà, un peu banale, 50 ans bientôt, et celle d'Edgar, et puis des plus jeunes encore qu'Edgar, les très jeunes dont je m'occupe à Beaussoir, qui sont des jeunes qui émergent maintenant et qui sont formidables. Et je crois beaucoup en ces appels d'air de génération.
Alors, vous vous retrouverez entre autres pour jouer le premier quintet avec Edgar. Edgar, vous jouerez la musique pour violoncelle, une partie de la musique pour violoncelle et piano de Fauré. Visiblement, il aimait beaucoup votre instrument, puisqu'il vous a légué quand même quelques chefs-d'œuvre, non seulement des sonates, mais des petites miniatures qui sont absolument sublimes.
Exactement, exactement. Fauré a écrit deux sonates pour violoncelle, et donc à Évian, j'aurai la chance de jouer la deuxième sonate, qui fait partie aussi, je rejoins ce que disait Renaud, d'une période de la vie relativement tardive de Fauré, avec un univers effectivement musical et sonore qu'on pourrait caractériser avec plein de mots, beaucoup d'images, mais un univers assez particulier et très propre à la fin de vie de Gabriel Fauré. Et puis, bien sûr, en opposition, ces petites pièces comme la Sicilienne, comme l'Élégie de Fauré, qui correspondent plus à la jeunesse de Fauré et qui sont dans une forme de tout début de post-romantisme.
Voilà, avec de salon, la vraie musique de
exactement.
Salon, dans le noble sens du terme,
ah, oui.
Qui était jouée d'ailleurs dans la Fondation Polignac. Enfin, toutes ces œuvres étaient jouées dans des salons
dans
pour
salons.
50, 60 personnes.
Ouais, elles ont un charme absolument irrésistible. Hein. C'est pas du tout péjoratif. Hein,
non, mais c'est vrai, quand on dit musique de salon, on a toujours. Il y a un côté péjoratif. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça ne l'est pas. Et c'est de la belle musique.
Et alors, vous jouerez ensemble ce premier quintet avec piano. On est dans quelle période, le premier quintet? Une période un peu plus tardive, un Fauré un peu plus complexe?
Oui, Renaud. Même si les gens qui aiment Fauré, j'en parlais avec Lucas Debar, qui est un amoureux transi de Fauré, ces quintettes sont une sorte d'apogée. Moi, j'ai beaucoup plus joué les quatuors avec piano. Mais c'est vrai que les quintettes, c'est encore une autre dimension. On a l'impression que c'est les quatuors, alors vous allez me dire plus un instrument, oui, mais en version comme en 3D. Il y a quelque chose de totalement incroyable, comme s'ils se livraient encore plus et avec une pudeur encore plus grande dans les quintettes. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible. Quand on aime Fauré, alors les quintettes, c'est un pied total à jouer.
Et pour les violoncellistes, c'est vrai qu'il y a une belle densité sonore dans ces quintettes.
Oui, très très belle densité sonore, relativement comparable. Je parle juste de la voix du violoncelle aux deux quatuors aussi avec piano. La basse fait effectivement complètement partie de ce lyrisme aussi, parce que Fauré écrit énormément dans une forme de contrepoint assez complexe, mais qui est toujours à la fois agréable pour les artistes qui performent ses œuvres et pour le public, je le pense.
Voilà. Alors, vous jouerez ensemble la musique de Fauré, mais pas que, puisque vous participerez également à une soirée en hommage à Daniel Barenboim, avec entre autres Martha Argerich, et vous vous êtes déjà retrouvés tous les trois, Edgar Moreau, Renaud Capuçon et Martha Argerich, pour jouer la musique de Mendelssohn. Thank you. Le troisième mouvement du deuxième trio avec piano de Mendelssohn par Renaud Capuçon et Edgar Moreau, qui sont nos invités ce soir sur Radio Classique, ainsi que Martha Argerich. Alors, vous vous retrouverez, Renaud Capuçon et Edgar Moreau, à Évian à l'occasion de cette édition des Rencontres musicales d'Évian, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 26 juin, enfin je le rappelle à nos auditeurs, parce que je pense que vous le savez, du 26 juin au 6 juillet. Martha Argerich sera présente de nouveau. Elle participera avec vous deux à une soirée en hommage à Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, si sa santé le lui permet, il a annulé quelques concerts récemment.
Il a une santé qui est fragile en ce moment et par moments il est en meilleure forme, par moments en moins bonne forme. Et donc on espère qu'il sera présent avec nous à Évian. Il a souhaité venir parce qu'il n'est jamais venu. Et donc il a parlé à son ami Zubin Mehta l'année dernière et ils se sont dit ensemble que... Enfin, Zubin a dit à son pote Daniel qu'il avait trouvé génial. Et donc Daniel Barenboim m'a appelé en disant « Mais j'aimerais bien venir à Évian ». Voilà comme ça parfois, que c'est comme ça que les choses se passent. Et puis moi j'ai trouvé évidemment formidable qu'il puisse venir et l'idée de lui rendre un hommage particulier parce que la France aime cet homme extraordinaire, pas que la France, mais c'est vrai que nous on a quand même un rapport particulier avec Daniel Barenboim parce qu'il a été très présent avec l'Orchestre de Paris dans les années 70-80 et puis parce que c'est l'un des géants du siècle. Et donc, avoir un hommage à un tel personnage musical avec une autre immense dame du piano, qui est Martha Argerich.
Et qui s'aime tant, qui s'apprécie
voilà,
tant.
Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir deux générations, ou presque trois, mais en tout cas, deux plus jeunes, Edgar et moi, et puis ces deux dinosaures de la musique dans le plus noble sens du terme. Et on va jouer ensemble avec Martha le deuxième trio de Shostakovich, avec Edgar, qu'on a déjà joué ensemble avec Martha Argerich, notamment à la Philharmonie de Paris. Et c'est une œuvre qu'elle joue. On a l'impression qu'il a été composé pour elle. Voilà.
Je me souviens de Martha en sortant de scène. On était encore assis, qu'elle se tourne vers nous et c'était spécial. Hein, elle nous dit ça.
Exactement. Ouais. Et je crois qu'on entend même sur l'enregistrement.
Oui, exactement.
Mais ce sera sans doute encore spécial. Ce sera le 3 juillet, cette soirée en hommage à Daniel Barenboim à la Grange au Lac d'Évian. On parlait de Forêt, de cette intégrale de la musique de chambre, mais vous donnerez également son requiem, vous dirigerez son requiem, Renaud Capuçon, avec votre orchestre de chambre de Lausanne, diriger une œuvre sacrée. Est-ce que vous l'avez déjà fait?
Ça va être la première fois, on l'aura donné à Lausanne juste avant. C'est un programme qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ouvrir la Pavane de Forêt, qui est une des œuvres les plus connues du compositeur. Et en deuxième œuvre, le Polyptyque de Franck Martin. Franck Martin est un compositeur suisse qui est assez peu joué en France, que j'aime particulièrement, et notamment cette pièce qui s'appelle Polyptyque. C'est une série de pièces qui ont été écrites pour Yehudi Menuhin. Ces pièces retracent le chemin de croix du Christ. Donc c'est vraiment une œuvre éminemment religieuse. Et j'ai pensé que de la mettre en première partie du Requiem de Forêt, qui est une œuvre extraordinaire et profondément, bien sûr, religieuse et sacrée. Comme j'allais dans ce même concert jouer et diriger, j'ai trouvé que c'était un pont intéressant.
Puis vous allez diriger des chœurs, des voix, donc des vibrations particulières. Vous avez déjà accompagné des chanteurs, mais...
Là, je dois dire que je suis extrêmement impatient, comme je suis aussi impatient de diriger le requiem de Brahms dans quelques années. Donc j'ai décidé, dans les années qui viennent, de diriger les œuvres qui ont bercé toutes mes années d'enfance.
Alors Edgar Moreau, on pourra profiter, certains jeunes violoncellistes pourront profiter de vos talents de professeur à Évian puisque vous donnerez des masterclass. Vous êtes depuis cette année professeur au CNSM de Paris. Vous avez une classe. Qu'est-ce que cela a changé pour vous en tant que musicien, en tant qu'homme? Vous venez d'avoir 30 ans, vous êtes professeur au CNSM de Paris.
Ça a changé, je dirais, beaucoup de choses. Je dirais que je me nourris énormément. Renaud parlait de transmission tout à l'heure de différentes générations en règle générale qui se côtoient sur scène. Dans l'enseignement, c'est vrai que j'arrive à trouver de plus en plus une forme de don de soi. On fait un métier quand on est soliste, quand on joue des concerts, qui peut être parfois aussi un peu narcissique, en tout cas vachement centré sur soi-même. Le fait de donner, j'ai pas encore moi d'enfant, j'ai pas encore forcément de famille, le fait de donner à d'autres et de pouvoir un petit peu rendre ce qu'on nous a justement donné, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. D'un point de vue musical et d'un point de vue humain. Et puis on apprend, en fait. Renaud pourra peut-être aussi, parce que Renaud est professeur depuis bien plus longtemps que moi, mais on n'a pas forcément cette même façon de voir les choses. Quand on dit des choses à des élèves, et bah, parfois on se les dit aussi à soi-même.
En expliquant ou en résolvant un problème, en tâchant de résoudre un problème pour un jeune, en le formulant, on résout soi-même les questions.
Et c'est extraordinaire.
Le fait de verbaliser ouais. Et le fait aussi d'avoir finalement de ressortir parfois des choses que nos professeurs nous ont dit, qu'on avait emmagasinées sans forcément l'analyser vraiment. Et parfois, je rentre le soir et je me dis, mais c'est ce que tu as dit pour un tel, en fait, pourquoi tu ne le fais pas toi?
C'est
exactement ça.
C'est vrai.
Moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir enseigné plus tôt. Parce que je me dis qu'en ayant enseigné plus tôt, j'aurais économisé beaucoup plus de temps encore.
Bon,
j'aurais gagné du temps.
Tard.
C'est bien là, que tu commences à enseigner si tôt. C'est formidable.
Puis vous voyez émerger des musiciens que vous avez formés, qui commencent à faire de belles carrières.
Bien sûr, ça, c'est
une satisfaction formidable, j'imagine. Donc des masterclass d'Edgar Moreau, mais aussi de Paul Meyer et de Rena Cherechevskaya, grande pédagogue, illustre pédagogue du piano, dans le cadre de ces rencontres musicales d'Évian qui se tiendront du 26 juin au 6 juillet. Les micros de Radio Classique seront là pour vous faire partager certains des moments forts de ce festival. On va se quitter avec quelques notes de Forêt que vous jouerez dans quelques jours à la Grange au Lac, Edgar, la Sicilienne, et que vous avez enregistré avec Franck Brallet. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. À noter que l'aventure Forêt continue pour vous, Renaud, puisqu'il y a un disque qui sortira dans quelques jours avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne dédié à Forêt.
Oui, c'est un des disques consacré à la musique d'orchestre de Gabriel Fauré, avec notamment Pélias et Mélisande, Masque et Bergamasque, l'élégie avec Julia Hagen, la magnifique ballade avec Guillaume Bellum, la pavane, et puis même le concerto pour violon de Gabriel Fauré, qui est une vraie découverte, et que je vous encourage à écouter parce que c'est une œuvre absolument splendide.
Donc on attend jusqu'au 21 juin pour découvrir cet album. Merci beaucoup.
Merci.
On écoute la Sicilienne. La Sicilienne de Forêt par Edgar Moreau et Franck Bralet. Edgar Moreau que l'on retrouvera donc cet été à la Grange au Lac des Viandes dans le cadre des rencontres musicales. Rendez-vous du 26 juin au 6 juillet et Radio Classique y installera cette année encore ses micros pour vous en faire vivre quelques moments forts.
Nouvelle génération de Thierry Hillériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, une jeune chef d'orchestre qui défraie cette année la chronique.
C'est vrai Laure, et pas seulement la mienne. Elle s'appelle Elim Chan, et si l'on a beaucoup parlé d'elle à l'international ces dernières semaines, eh bien c'est qu'elle faisait, il y a un tout petit peu plus d'un mois, ses débuts à la tête du Philharmonique de New York. Des débuts très attendus, car il faut bien le dire, la jeune femme, originaire de Hong Kong, mais formée aux États-Unis, est un véritable phénomène. Déjà, outre-Atlantique, on parle même d'elle là-bas. Rendez-vous compte pour remplacer Gustavo Dudamel à Los Angeles lorsque ce dernier traversera l'Ouest américain pour prendre ses fonctions de directeur musical au New York Phil, justement. Ce sera à l'horizon 2026. Bien qu'elle ait fait partie du programme de mentoring de Dudamel à Los Angeles, où elle était en résidence donc en 2016 et 2017, pas sûr qu'Elim Chan, 37 ans seulement, soit réellement prête pour endosser une telle responsabilité. Mais bien malin, cher Laure, qui saurait prédire l'avenir de ce véritable feu follet de l'orchestre. Car la musicienne, qui entre deux concerts, pratique la boxe pour se maintenir en forme, n'a pas froid aux yeux. Et jusqu'à maintenant, eh bien, elle n'a jamais manqué une occasion de faire ses preuves. Témoin ses très nombreux débuts cette saison encore, au pupitre des phalanges les plus prestigieuses d'Europe et d'Amérique, de l'Orchestre de Paris en septembre dernier, au Philhar de New York en passant par la Staatskapelle de Berlin ou encore l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Un chiffre éloquent, tenait selon une récente étude, Elim Chan serait la chef d'orchestre ayant dirigé le plus de concerts à travers le monde en 2023. Elle aurait été même à deux doigts d'intégrer le fameux top 20, jusqu'ici exclusivement masculin, des chefs les plus actifs dans le monde.
Eh bien, il faut dire que la jeune femme a su très tôt qu'elle voulait être sur les podiums.
C'est vrai, et c'est elle qui le dit. Il n'y avait pas de musicien dans sa famille, sa mère travaillait dans l'administration et son père, lui, était artiste peintre, mais il adorait la musique et il y avait dans son atelier de peinture à Hong Kong, où la petite Elim passait le plus clair de son temps libre, des monceaux de disques classiques. Elle se souvient avoir vécu ses premiers grands chocs au disque dès l'âge de 6 ans. Quant à la direction, eh bien le déclic remonterait à ses 9 ans. Elle avait commencé le chant et le piano comme bon nombre d'enfants chinois 2 ans plus tôt. Et c'est en se rendant à un concert du Philharmonique de Hong Kong avec sa classe qu'elle aurait eu la révélation en voyant diriger Yip Wing Sie, tandis que cette dernière était justement chef en résidence à Hong Kong. Pour Elim, ce fut une évidence. Elle écrit quelques jours plus tard dans une rédaction pour son école « Un jour, ce sera moi ».
Et ce jour, Thierry ne tarda pas à arriver.
Eh bien non, à sa sortie de l'école, celle qui entre-temps s'était mise au violoncelle, histoire de jouer dans l'orchestre, part aux États-Unis, d'abord pour étudier médecine. Sur l'insistance, elle l'avoue de sa mère qui veut assurer son avenir. Ce sera l'université du Massachusetts. Là-bas, elle intègre le cœur de l'université, ne tarde pas à être marquée par le chef qui la nomme assistante. Elim a 19 ans lorsqu'elle dirige son premier concert avec le Requiem de Verdi. Tout de même, c'est une révélation. Après 3 ans de médecine, changement de braquet, elle intègre la faculté de musique pour devenir chef et sort avec un doctorat en poche. À 26 ans, c'est à cet âge qu'elle se fait remarquer sur la scène internationale en remportant le concours de direction Donatella Flick, organisé par le London Symphony Orchestra, une institution évidemment. On est en 2014 et Elim Chan devient la première femme, elle reste la seule d'ailleurs, à en remporter le premier prix qu'elle reçoit des mains même du futur roi Charles III. Dès lors, eh bien, elle enchaîne les engagements rapidement, chef assistante de Gergiev et de Bernard Haitink au LSO, première chef invitée du Royal Scottish Orchestra, et puis à 32 ans seulement pour une femme, directrice musicale de l'Orchestre symphonique d'Anvers, un poste qu'elle occupe toujours aujourd'hui, même si elle a récemment annoncé vouloir quitter ses fonctions pour se consacrer à une carrière freelance et sans doute se rendre disponible pour des engagements plus importants à venir. Et bien pour l'heure, c'est bien avec l'Orchestre d'Anvers qu'elle vient de nous livrer son premier enregistrement chez Alpha, All These Lighted Things. Elle dirige la suite orchestrale Roméo et Juliette de Prokofiev, plusieurs extraits de Daphnis et Chloé, ainsi qu'une création de la jeune compositrice Elisabeth Ogonek, entre explosion d'énergie et foisonnement de couleurs.
Thank you.
le début du Roméo et Juliette de Prokofiev par l'Orchestre symphonique d'Anvers et la jeune chef Elim Chan dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à Amandine Legris pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Svetlin Roussev qui viendra nous présenter son très bel album placé sous le signe de l'amour. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.